La chronique du design. On retrouve Anna pour la chronique du design.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chronique du design. Chaque semaine, je vous parle d'objets du quotidien qu'on ne remarque même plus et dont on ne connaît pas l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un objet qui est ancré dans le quotidien du monde entier, que ce soit pour le sport, comme loisir ou comme moyen de transport. Si vous n'avez pas encore deviné, je parle du vélo. Pour nous, c'est un objet banal, mais croyez-moi, ça ne l'a pas toujours été. La première forme de vélo apparaît seulement en 1817. On est en pleine révolution industrielle et ça fait déjà quelques temps que le baron allemand Karl Drey cherche une alternative plus légère et rapide que la calèche. Mais l'élément déclencheur, c'est une éruption volcanique en Indonésie. Oui, dit comme ça, ça n'a pas de sens, mais je vais vous expliquer. Après l'éruption, des nuages de cendres se propagent sur toute la planète. Face à de gros problèmes de récolte, de nombreux pays subissent la famine. Beaucoup d'entre eux décident alors d'abattre les chevaux, qu'ils ne peuvent plus nourrir et aussi parce qu'ils manquent de viande. Et c'est là qu'intervient le baron Drey, qui propose une solution pour se déplacer sans chevaux. Au début, on se moque de lui parce que l'idée de tenir en équilibre sur deux roues paraît absurde. En fait, le baron a constaté qu'une roue qui tourne vite se tient droite. Donc, il utilise ce principe en reliant deux roues, avec des fourches, à un cadre en bois et un guidon pour s'orienter. Sur cet ancêtre du vélo, il n'y a pas encore de pédale. On avance en poussant le sol avec ses pieds, ce qui lui donne son nom, la Laufmaschine, ce qui veut dire « machine à courir » en allemand. Sa machine est brevetée l'année suivante en tant que « premier transport orientable à deux roues et à propulsion humaine ». En France, elle est brevetée sous le nom de vélocipède, formée de vélos, rapide, et pède, pied. Pendant quelques années, le vélocipède a du succès. Il est novateur et les gens de la Haute s'en amusent. Mais le problème, c'est qu'il pèse 25 kilos. Et en plus, il est trop dangereux. Du coup, il tombe rapidement dans l'oubli et il est même interdit dans certaines villes à cause de nombreux accidents. Aujourd'hui, le vélocipède, aussi appelé Draisienne du nom de son inventeur, existe toujours, mais en petit format pour les enfants qui apprennent à faire du vélo. Il faut attendre 40 ans pour que le vélo refasse son apparition avec une innovation déterminante, les pédales. Même si personne n'est d'accord sur la date ou l'identité de celui qui a eu l'idée, il est souvent dit que c'est l'œuvre de Pierre Michaud, un charron parisien. Ça serait en 1861, lorsqu'un chapelier lui aurait demandé de réparer la roue avant de sa draisienne, que son fils Ernest Michaud, après avoir essayé l'engin, se serait plaint de devoir garder les pieds en l'air une fois lancé. Il aurait alors eu l'idée de placer des repose-pieds qui serviraient aussi de manivelle sur la roue avant. Dans leur brevet d'invention, les Michaud nomment la nouveauté pédivelle ou pédale. Forte de cette amélioration, ce qu'on appelle rapidement la Michaudine aura un grand succès, notamment auprès de l'aristocratie. Le fils de Napoléon III est même surnommé Vélocipède IV parce qu'il adore faire des balades à vélo avec le fils Michaud. À partir de là, la Michaudine est produite en usine et devient très populaire en Europe. Il faut quand même préciser qu'à cette époque, c'est l'objet manufacturé le plus complexe à produire avec la locomotive à vapeur et la machine à coudre. Mais la mode passe vite. En seulement 2 ans, le grand public abandonne la Michaudine à cause de nombreux défauts. Elle est encore trop lente, trop lourde et inconfortable. À cause de ses roues en bois cerclées de fer, elle est surnommée « tape-cul » en France et « bone shaker », littéralement « secoueuse d'eau » en Angleterre. À partir de là, tout le monde essaye de l'améliorer. Pendant presque 30 ans, les grands pays industrialisés sont en concurrence. Plusieurs centaines de brevets sont déposés. C'est en Angleterre que la première innovation marquante fait son apparition avec le Grand Bi en 1872. Je pense que vous avez déjà vu ce vélo. Il a une roue énorme à l'avant et toute petite à l'arrière. Mais pourquoi cette forme étrange ? Eh bien, l'idée, c'est d'aller plus vite. En fait, comme les pédales sont fixées sur la roue avant, en agrandissant cette roue, chaque coup de pédale permet d'avancer plus. Le Granby a un succès immédiat chez les riches bourgeois anglais et français. Mais vous vous imaginez, vous, rouler sur un vélo avec une roue qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres ? Je confirme, c'est pas pratique et même très dangereux. Rien que pour monter ou descendre du vélo, c'est une épreuve. Mais surtout, au moindre obstacle, le cycliste peut se faire éjecter en avant. Seuls les jeunes fous de vitesse et les casse-cou continuent de l'utiliser. Ils organisent des courses et savoir bien tomber fait même partie du sport. Forcément, on cherche à rendre le vélo plus sûr et c'est ainsi que naît dans les années 1880 le design révolutionnaire de la bicyclette de sécurité. L'ingénieur anglais John Starley, qui en est à l'origine, n'est autre que le neveu d'un des inventeurs du Granby. Avec la fameuse bicyclette de sécurité, John donne vie au vélo tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce qui change tout, c'est son idée d'utiliser la transmission par chaîne, du pédalier vers la roue arrière. Je vous explique. Le principe, c'est celui de la démultiplication. Au niveau des pédales, il y a un plateau denté, et sur la roue arrière, il y a un pignon denté trois fois plus petit. Les deux sont reliés par une chaîne. Donc, pour chaque coup de pédale, la roue fait trois tours. J'espère que mon explication est assez claire. En tout cas, retenez que désormais, on peut aller beaucoup plus vite en faisant beaucoup moins d'efforts. En plus, grâce à cette nouveauté, les deux roues sont à nouveau de la même taille, donc le vélo est stable. Mais Starley ne s'arrête pas là. Il fait tout pour assurer le confort et la sécurité du cycliste. Le centre de gravité est placé plus bas et entre les deux roues, évitant les vols planés. Les freins sont plus efficaces et la selle est réglable, donc elle s'adapte à tout le monde, hommes, femmes et enfants. D'ailleurs, il faut que je vous explique à quel point le vélo a eu un rôle important dans l'émancipation des femmes. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, les femmes vont devoir se battre pour faire du vélo. Dites-vous que les hommes s'y opposent tellement qu'ils vont avancer des arguments complètement absurdes. Apparemment, faire du vélo pour les femmes serait une forme d'exhibitionnisme. La position de la selle et le mouvement s'apparenterait à une pratique masturbatoire. Certains médecins disent même que la bicyclette est dangereuse pour la santé des femmes. Ils parlent de machine à stérilité. Et plus grave encore, les femmes pourraient se déplacer librement et échapper à la surveillance des hommes. Vu l'ambiance, vous imaginez bien qu'il fallait avoir du courage pour avoir le droit de faire du vélo. En termes pratiques, le vélo n'est pas adapté aux femmes, enfin surtout à leurs vêtements. Les robes sont trop longues et les corsets trop serrés. En 1851, l'américaine Libby Miller se débarrasse du corset et invente le bloomer, une sorte de short féminin qui permet de faire du vélo. Bien sûr, il ne va pas être autorisé tout de suite, mais il fait avancer les choses. Et en 1892, une circulaire autorise les femmes à porter un pantalon, mais que si elles tiennent un guidon de bicyclette dans la main. Quand même pas très pratique comme règle. Revenons-en au vélo. Après quelques autres innovations dans les décennies qui suivent, telles que les pneumatiques à air, les vitesses, la roue libre, le dérailleur et les suspensions, le vélo moderne est né. Avec les progrès industriels, le vélo devient de moins en moins cher, donc accessible à tous. Aux bourgeois, aux ouvriers, aux facteurs, aux policiers, tout le monde l'utilise, même l'armée. Le vélo devient utilitaire, mais il reste un loisir et un sport particulièrement apprécié des Français. Comme vous le savez, la voiture a ensuite eu son heure de gloire et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que le vélo et les mobilités douces reviennent en force. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez appris des choses sur cet objet dont le design a évolué pendant plus d'un siècle et qui continue de s'améliorer depuis peu avec le moteur électrique. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du design.